La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Hello les matinaux, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous connaissez Longueur d'onde ? Ce festival de la radio et du podcast qui se tient à Brest tous les ans, Campus France est la fédération des radios étudiantes de France, dont Radio Campus Paris. Et à ce titre, nous y étions avec eux comme chaque année depuis 10 ans. J'ai découvert de folles choses, dont des chercheurs qui sont dans le domaine du son. Alors nous, on ne connaît pas trop ça, car à Radio Campus Paris, on est plutôt des faiseurs de son et on a rarement le temps de réfléchir au son et à ce que c'est. Des faiseurs de son, des petites fées quoi, qui se prennent les pieds dans les fils et les oreilles dans les micros. À Longueur d'onde, je suis donc allée rencontrer le Cresson, un laboratoire de recherche grenoblois sur le son. Mais alors, quelle fut ma surprise, il y a vraiment des gens qui ont le temps de se demander ce qu'elles sont, plutôt que d'en faire. Alors, ils ont notamment travaillé à une catégorisation des sons, dont certaines sont assez rocambolesques. Sur le podium de la classification des sons les plus inattendus, mesdames, messieurs, l'effet cocktail. Et non, vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas perdu dans le verre oblique de vodka martini de James Bond. L'effet cocktail pour le son, c'est quand vous vous trouvez dans un endroit où une foule se masse, avant un cours magistral, par exemple, on est à Radio Campus Paris, ou à un buffet mondain, ou dans la queue du guichet unique. Vous parliez fort en racontant les churros trop sucrés enfournés ce week-end, et là, soudainement, prévisible mais imprécisément ponctuel, le prof, le premier ministre ou l'assistant social débarque. Selon la situation dans laquelle vous vous êtes figuré être, le ton chute et la foule, amassée là depuis des plombes, perd au moins 8 décibels en 3 secondes. Le crescendo et le décrescendo brusque du brouhaha d'un groupe de gens a maintenant un nom et vous le savez, l'effet cocktail. Alors nul doute, et vous endormirez mieux ce soir, moi aussi figurez-vous, en voilà une information capitale à mon existence. Et au fait, est-ce que vous connaissez, vous y connaissez un peu en histoire de l'Europe centrale et orientale ?
Non.
Est-ce que vous pouvez me citer quelques anecdotes sur la domination soviétique en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 et jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989 ?
Non.
C'est un bruit de buzzer, hein. Je précise que Sam qui est avec moi en studio n'est
ça
pas enroué.
La
Est-ce que vous savez à quoi ressemblait le quotidien concret des habitants en Allemagne de l'Est, en RDA ou en Tchécoslovaquie ?
Non.
Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus et de pouvoir crâner d'anecdotes, je vous conseille vivement d'écouter le podcast Fragments à l'écoute de l'Est, entendable et trouvable sur toutes les plateformes. Il semblerait que je connaisse bien l'autrice de ce podcast, mais je ne vous en dis pas plus, puisque je le sais, vous mourrez d'envie de savoir de quel bois est fait la matinale de ce soir. Au programme de votre statue vivante, qui est la matinale de 19h, oui, car c'est à la fois un monument de plus de 15 ans d'existence et un objet en perpétuel mouvement. Cette émission, dans le Zoom, nous recevons Okelou, musicienne électropop, dont nous passons les disques depuis moult mois sur Radio Campus Paris. Le flash info sera assuré par Fabien. Une fois n'est pas coutume, un poème sera déclamé pendant l'émission. Simon Marie nous servira sa chronique pour conclure cette matinale en beauté. Et tout de suite, en première partie, nous allons parler des droits LGBT aux États-Unis menacés depuis l'élection de Trump. Nous recevons la directrice de l'association Outrans sur le sujet. À l'animation, c'est Marine et on est ensemble pour une heure de live avec les meilleurs bénévoles de Radio Campus Paris.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Salut Sam.
Bonsoir.
Heureux. Tu vas bien ?
Oui, ça va.
Et tu vas mener cette interview donc, et nous avons en phoneur ce soir par téléphone Anaïs Perrin-Prével. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir.
Vous êtes donc directrice de l'association Outrans. Oui. Trump a fait sauter les mesures pour la diversité et les droits LGBT mis en place par Biden. Il a notamment révoqué deux textes concernant l'équité raciale et les discriminations basées sur le genre ou l'orientation sexuelle. Sam, dis-nous en plus.
Alors... Donc, on va parler de la menace des droits LGBT. Justement, tu as bien rappelé donc ce que Trump a fait, mais je voudrais préciser que
oui, on en a besoin.
Voilà, que que rien que le jour de son investiture, donc 100 décrets ont été signés, dont 3 qui s'en prennent aux personnes trans particulièrement. Donc le premier décret énonce que les sexes ne sont pas modifiables. Le deuxième met fin au programme de diversité et d'inclusion dans l'administration fédérale. Et le troisième interdit l'utilisation des fonds fédéraux pour promouvoir l'idéologie du genre. Enfin, ce qu'ils appellent l'idéologie du genre. Donc, juste pour redonner un tout petit peu contexte, il faut savoir que durant le mandat de Joe Biden, déjà, il y a eu de nombreuses propositions de lois transphobes. Et donc, beaucoup ont été refusés, bien évidemment, mais tout de même, ce que je veux dire, c'est que la transphobie d'État, ça date pas du 20 janvier 2025, quoi.
Absolument. Donc,
moi, j'avais une première question pour Anaïs. D'abord, je voudrais présenter un tout petit peu l'association, en fait. Donc, l'association Outrans, O-U-T-R-A-N-S, c'est une association féministe d'auto-support par les personnes trans, pour les personnes trans. Qui inclut personnes transmasculines, transféminines, non-binaires, des personnes en questionnement, les personnes alliées cisgenres. Et c'est une association qui vise à créer un réseau d'entraide et qui se bat pour un meilleur accès à la santé, mais aussi à sensibiliser aux transidentités. Donc, je suis très heureuse de pouvoir accueillir Anaïs ce soir.
On est
très
heureux.
Merci de l'invitation.
Pas de souci. Et du coup, ma première question, c'était par rapport aux mesures qu'on vient de dénoncer. Donc, notamment aussi ce qu'a dit Donald Trump dans son discours d'investiture, c'est-à-dire que maintenant les États-Unis ne reconnaîtront plus que deux sexes. D'ailleurs, c'est faux, mais deux sexes masculin et féminin. Qu'est-ce que vous pensez que pourraient être les conséquences de ces mesures sur les personnes trans et les personnes LGBT en général? Quels sont les risques dans leur vie au quotidien?
Alors, il y a beaucoup d'autres mesures qui sont arrivées depuis, parce qu'il y a eu, pour la plus récente, c'est l'interdiction des athlètes trans dans toutes les compétitions universitaires et par extension pour les Jeux Olympiques, avec une déclaration en disant que pour les prochains Jeux Olympiques de Los Angeles, il n'y aurait pas de visa accordé pour les athlètes trans. Plus l'interdiction des transitions de genre pour les mineurs, plus d'autres mesures qui ont accompagné à divers degrés, et certaines d'ailleurs qui, il y a 8 ans, avaient déjà été prises, comme l'interdiction de servir dans l'armée pour les personnes trans, l'accès aux toilettes, par exemple, interdite pour les personnes trans, etc.
Mais est-ce que, justement...
Ce qui s'était passé il y a 8 ans en plus, quoi.
Justement, la loi pour les toilettes, est-ce que ça n'avait pas été abandonné parce que, justement, Donald Trump avait dit ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'il y avait des problèmes avec la Caroline du Nord, je crois, et qu'ils ne voulaient pas se mettre à dos la Caroline du Nord. Et du coup, ils avaient abandonné ça. Et donc, je ne sais plus trop, je crois, hein.
J'ai plus exactement le détail de ce cadre-là, donc je dirais des bêtises en m'embarquant là-dessus. Le fait est qu'il y a eu le retour des toilettes. Alors, ça a été avec un autre élément où il y a un piège qui a essayé d'être tendu contre parce qu'il y a quand même eu une bonne nouvelle lors des élections de novembre, c'est que pour la première fois, il y a une personne trans, en l'occurrence une femme trans, qui a été élue à la Chambre des représentants, donc au Parlement américain. Il y a eu toute une attaque qui a été faite contre elle en disant qu'elle ne devait pas utiliser les toilettes des femmes au Capitole, et donc de l'interdire d'utiliser les toilettes des femmes. Elle a eu l'intelligence de ne pas rentrer dans ce débat-là et de se focaliser, plutôt que de tomber dans le piège qui lui était donné, de se focaliser sur son travail de parlementaire de façon plus globale, et pas spécifiquement de défendre son petit intérêt de pouvoir aller dans telle ou telle toilette, ou de se défendre sur les attaques qu'il peut y avoir. Mais on voit bien, en fait, qu'il y a un environnement général, et c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'on a clairement, dans un discours d'investiture qui est très court, parce que nous on est un peu habitués à des discours qui durent 1h30, dès que le Premier ministre fait le moindre discours, c'est 1h30, le Président n'en parle pas, et à chaque fois on a des discours qui sont très très longs. Là, le discours d'investiture, qui est quand même important, parce que c'est le premier discours sur les 4 ans à venir de mandat, il dure 25 minutes, une demi-heure, et pas plus que ça. Et dans ce discours-là, il y a tout un chapitre sur les transidentités, contre les personnes trans, sur l'interdiction des personnes trans pour les visas d'utiliser le genre revendiqué. Et il faut comprendre aussi que ces éléments-là viennent d'un environnement précédent qui était effectivement négatif, mais pas de l'administration précédente, mais des États républicains, donc des États déjà trumpistes qui avaient fait des lois pour interdire les transitions chez les mineurs, parfois même chez les adultes, et qui faisaient déjà beaucoup d'attaques contre les personnes trans. Entre parenthèses, c'est les mêmes États que les États qui ont interdit l'IVG dès que ça a été possible. On a la même logique qui se lance dans ce cadre-là. Et puis, on avait à l'inverse une décision de Biden qui donnait la possibilité d'avoir un genre neutre sur son passeport et par extension aussi la capacité d'avoir un passeport qui correspond à son genre revendiqué et pas à sa mention de sexe à l'état civil, c'est-à-dire pas à son sexe d'assignation. C'est pas réellement la même chose aux États-Unis, mais c'est le principe du sexe d'assignation, donc la mention du genre qui correspond à son sexe d'assignation. Et là, Trump souhaite que l'on revienne, en tout cas impose que l'on revienne au genre qui correspond à son sexe d'assignation. Donc, toutes les personnes qui avaient des passeports qui avaient été modifiés, dès lors qu'il y a une trace que ce sont des personnes trans, parce que par exemple, les personnes avaient eu un passeport avant, tout renouvellement de passeport se fera sur le passeport d'origine, sur la mention de sexe d'origine. Alors qu'à l'inverse, les personnes qui n'ont jamais eu de passeport avec leur mention de sexe d'assignation, bah pour le coup, l'État n'a pas la capacité de le détecter et donc, potentiellement, elles pourraient garder le passeport avec la bonne mention de sexe. Mais ça reste encore très, très aléatoire. Donc, on a plein de personnes qui n'ont plus de passeport ou qui vont avoir des passeports avec la mention de sexe qui ne correspond pas. Et puis, toutes les personnes non-binaires qui avaient le X, qui, pour le coup, ça disparaît complètement. Ça veut dire qu'aussi, une personne trans va avoir du mal à pouvoir sortir des États-Unis et à pouvoir re-rentrer aux États-Unis parce que si vous avez une vie qui est dans un genre et que vous avez un passeport qui est complètement à l'opposé, on voit tous les problèmes qu'il peut y avoir lors des passages des frontières et en plus de ça, dans un état qui est très négatif pour l'accueil et la réception des personnes trans, y compris les personnes transnationales. On s'inquiète aussi des navigations à l'intérieur des États aux États-Unis avec des difficultés d'un État à l'autre où ça peut être très très compliqué pour les personnes et avec en plus accompagné sur ce qui a été lancé pour interdire les transitions chez les mineurs, une attaque particulière demandée par Trump aux effectifs fédéraux contre les États sanctuaires, c'est-à-dire les États démocrates qui, au contraire, ont renforcé les droits des personnes trans et essaient de protéger un peu plus les personnes trans.
Oui, justement, je me suis demandé si ça aurait été pu être quelque chose de positif pour les personnes trans ou en tout cas les personnes LGBT en général, si c'était possible de faire des états sanctuaires, justement, des états démocrates qui ne vont pas faire passer de lois, enfin en tout cas toutes les lois contre les personnes trans, mais au final, j'ai l'impression que c'est pas trop possible, comme vous venez de le dire.
Bah, c'est possible et pas possible, parce qu'il y a beaucoup d'annonces dans ce que dit Trump. Le président des États-Unis n'a pas un pouvoir absolu sur tous les éléments, et dans l'ensemble des décisions qu'il a prises, des executive orders et de tous les autres actes qu'il a pu signer depuis son installation, il y a déjà un certain nombre d'actes qui ont été attaqués en justice et qui sont déjà vidés de leur contenu, parce que heureusement, il y a malgré tout un minimum d'état de droit qui peut rester, et il y a des choses d'ailleurs qui ont été décidées qui ne dépendent pas du président, qui dépendent du Parlement, donc il faut que ça passe au Parlement, que ça passe à la Chambre des représentants et au Sénat. Donc on est sur des procédures qui sont différentes entre l'annonce, et Trump est très très fort pour l'annonce, et puis la réalité des textes qui vont être mis en place. On a typiquement, on le voit de plus en plus avec des hôpitaux qui prennent en charge des personnes trans, et quand on regarde un petit peu dans les différents réseaux, on se rend compte qu'il y a des hôpitaux qui, par anticipation de ces lois-là, ou de ces textes-là, ou de la validation de ces textes-là, disent « bon, ben, on arrête de prendre en charge les personnes trans, même si le texte ne leur impose pas de ne plus le faire », et à l'inverse, il y a des hôpitaux qui ont dit bah non, nous on tient à réaffirmer que légalement il n'y a rien qui nous empêche d'eux, donc on continue à prendre en charge. Donc on va continuer à prendre en charge par exemple des mineurs trans, donc on va continuer à prendre en charge des personnes, parce que le cadre juridique qui est déposé par Trump n'est pas un cadre qui va s'appliquer à ce degré-là, et après ça sera de la guerre de tribunaux et des attaques qui peuvent se faire d'un côté ou de l'autre. Mais c'est vrai que Trump a utilisé le fait que maintenant il est au niveau fédéral, donc il prend sur l'ensemble des États, pour transposer ce qui existait jusqu'à présent dans certains États républicains, et en plus de ça, avec une focale particulière pour essayer de limiter au maximum les capacités des États démocrates à être des sanctuaires, même s'ils vont tout faire pour l'être.
Oui, il y a un véritable effet d'annonce.
Oui, Clairement, mais ils travaillent toujours là-dessus. Enfin, Trump comme Musk passent leur temps à tweeter, à comment ça s'appelle son réseau social, Truth. Alors je sais pas si on dit Truster, j'en sais rien. En tout cas, publié sur les réseaux sociaux. On a l'impression, avec tout ce qu'on a entendu autour de Trump, des décisions qui ont été prises, en particulier anti-trans, mais pas seulement anti-trans, que Trump est là depuis très très longtemps. Ça fait pas un mois qu'il est en fonction. Et c'est vertigineux de voir toutes les annonces qu'il y a, parce que c'est l'effet Trump. Trump fait toujours comme ça. Il passe son temps à annoncer des choses tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et à occuper l'espace, à occuper l'espace médiatique et à faire du bruit au maximum, parce que plus il y aura de bruit, plus il laisse penser que les choses avancent et que les choses se font et qu'il est en train de faire sa révolution. Il y a des choses qui sont dramatiques dans ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a par extension aussi des effets de bord. On a parlé tout à l'heure des politiques de diversité et d'inclusion qui ont été interdites au niveau fédéral, mais elles ont, par ricochet, été interdites aussi dans les entreprises. Et il y a beaucoup d'entreprises privées qui ont retiré les politiques d'inclusion, de diversité, d'équité. C'est ça, hein, quand on est sur
Merci
les DIE,
beaucoup.
c'est ce principe-là.
Merci
C'est
beaucoup,
pour ça qu'il y a
Anaïs.
attaqué partout.
Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Anaïs Perrin-Pévrel. On revient tout de suite. Il y a deux parties d'interview et on écoute donc une musique. Ne vous endormez pas, on écoute juste. on écoute juste Je dors tout le temps de Horos.
Faut-il que j'en sois fier? Faut-il en faire un secret?
Moi, j'aime pas ça, les secrets.
À quoi ça tient de me plaire? À quoi ça tient de me faire crier? Si on s'envoyait en l'air, qu'on se rencontrait après, je sais plus vraiment y faire. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Pas grave quand je dors tout le temps, sauf la nuit évidemment. Je fume et puis j'attends. Mais je sais plus ce que j'attends.
Matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et nous sommes toujours avec Sam et Anaïs Perrin-Prévrel, qui est donc directrice de l'association Outrans, pour parler des droits LGBT qui sont menacés aux États-Unis en ce moment depuis l'élection de Trump. Sam, c'est à toi.
Merci pour la parole. Je voulais vous demander, après qu'on ait parlé de l'effet d'annonce de Trump et tout ça, comment on pouvait justement, dans la communauté queer, comment on pouvait agir, quelles sont, par exemple, les associations ou tout simplement les individus, qu'est-ce qu'on peut faire pour se battre contre ça et garder nos droits?
Il faut s'engager. Il faut clairement s'engager dans les associations, s'engager dans les associations. En proximité, comme c'est le cas sur les associations françaises, mais il faut aussi s'engager Sur les réseaux sociaux, il faut s'engager quand il y a des manifestations, il faut monter des mouvements, il faut montrer qu'on résiste et qu'au-delà même de la résistance, on va plus loin. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on essaye de nous attaquer sur quelque chose, si on se met juste en posture de défense et en mettant un bouclier, finalement on prend des coups mais on n'avance pas. Et de temps en temps, il va falloir aussi qu'on avance et qu'on pousse les choses en disant, vous voulez nous interdire tel ou tel élément, bah, on va vous demander un peu plus et même beaucoup plus. Et plus vous allez nous taper, plus on va vous demander et plus on va essayer d'avancer de façon à pouvoir sauvegarder à minima nos droits, mais si possible aussi aller en gagner d'autres. Il ne faut pas croire que ce qui se passe aux États-Unis ne nous atteint pas ici. C'est déjà le cas, hein, ça nous atteint déjà ici.
Oui, justement, je voulais savoir ça parce que, bah, je sais pas pourquoi, mais ça m'est venu quand j'ai préparé votre interview. Il y a une personne qui s'appelle Candice Owens, donc je pense que vous avez dû en entendre parler. C'est une femme politicienne qui est en train de répondre à la rumeur comme quoi Brigitte Macron est une femme trans, mais de manière négative, forcément. Et donc, je me demandais justement à quel point ça pouvait atteindre la France, toutes ces mesures et la situation qu'il y a aux États-Unis.
En réalité, ça atteint déjà la France, ça a déjà atteint la France. On a les mêmes mouvements anti-trans en France que ce qui existe aux États-Unis et qui sont très très installés au niveau de l'État. On a typiquement une loi qui a été votée en première lecture, mais qui n'a pas force de loi parce qu'elle n'a jamais été votée à l'Assemblée nationale. Ça a été voté en première lecture au Sénat pour interdire les transitions de genre pour les mineurs. C'est-à-dire exactement la même chose que ce que Trump a décidé. Et cette loi, son deuxième signataire et qui a mis tout son poids pour que ce soit voté par les sénateurs et les sénatrices LR, c'est Bruno Retailleau qui est ministre de l'Intérieur actuellement. On a l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui a retiré le terme transidentité et le terme homosexualité, sauf pour la dépsychiatrisation de l'homosexualité. On ne parle même pas de la dépsychiatrisation de la transidentité alors qu'elle est effective. Donc on a déjà ça. On est en train déjà de succomber à ça et on succombe d'autant plus que bah, on voit que personne n'a réagi sur le personnel politique, au niveau des parlementaires, etc., sur toutes les attaques qui sont ultra nombreuses contre les personnes LGBTQIA+. Et là où on a aussi d'autres attaques, c'est que les entreprises américaines qui ont des contrats avec le gouvernement américain se plient à la suppression de toutes les politiques de diversité et d'inclusion. Ça ne vaut pas que pour les personnes trans ou que pour les personnes LGBTQIA+. Ça vaut pour toutes les personnes qui sont sujettes à toute discrimination, y compris les femmes, y compris les personnes racisées, y compris les personnes en situation de handicap, y compris tout ce qu'il peut y avoir dans les critères de discrimination. Il y en a 24 sur le droit français et qui sont assez larges, l'état de santé, etc., etc., les origines, etc. Donc en fait, on a une attaque en règle qui se fait là-dessus, sur les entreprises américaines qui, ayant des contrats avec l'État, ont supprimé leur politique de diversité. Et comme ces entreprises existent aussi en France avec des politiques de diversité, eh ben, ces politiques de diversité sont aussi supprimées en France. Donc ça nous attaque directement. Toutes les personnes qui travaillent dans ces entreprises sont attaquées et toutes les personnes qui sont clientes de ces entreprises sont aussi attaquées. Pas sans savoir ce qui s'est passé avec Meta, donc Facebook, Instagram, WhatsApp, qui, pour le coup, a modifié ses règles internes pour dire que toute la modération doit pouvoir permettre le fait de pouvoir avoir des discours qui considèrent que le fait d'être une femme, le fait d'être une personne trans, le fait d'être une personne homosexuelle peut être qualifié de maladie mentale et de dérive.
Et
Et
ça,
ça doit pouvoir permettre de le dire.
c'est. Oui, c'est ça, c'est la liberté d'expression qui va au-delà de bah, la non-discrimination finalement. En fait, je me demandais sur ce
À la
point-là, à
liberté
quel
d'expression.
moment, oui, à quel moment c'était possible de. Comment dire? D'attaquer, enfin de discriminer des gens de telle manière alors que dans la Constitution elle-même, enfin, ce n'est pas possible, quoi. Enfin, c'est un peu naïf de dire ça, mais je me demandais quand même, quoi.
Mais en fait, il faut pas qu'on se fait avoir, hein, et on est les premières personnes à se faire avoir, ne serait-ce qu'utiliser le terme liberté d'expression. Non, c'est pas une liberté d'expression, c'est une liberté de haïr. C'est pas la même
Oui.
chose.
Non,
Et
ce que
c'est
je
pas
voulais
une
dire, c'est
liberté, d'ailleurs, c'est
que.
une capacité. Mais c'est important, les mots sont très importants et on se fait avoir dans ce cas-là. Et quand on regarde d'ailleurs tout ce qu'a fait Trump et Musk, tout ce qu'ils ont fait ces derniers temps, c'est d'interdire de parler de genre, interdire de parler de diversité, interdire d'être une personne trans dans l'armée, interdire d'avoir des politiques de diversité, etc. Donc en fait, on a une interdiction de s'exprimer sur beaucoup de choses plutôt qu'une liberté d'expression. dans la réalité. Et donc, c'est plutôt une liberté de haïr, c'est une liberté d'être raciste. Par contre, dès qu'on commence à ne pas être raciste, là, d'un seul coup, et qu'on est antiraciste, là, pour le coup, on se fait attaquer. Et on a les mêmes choses en France avec les attaques qui se font contre les Antifas, qui sont beaucoup plus fortes que les attaques qu'ils ont faites contre les fascistes et les nazis qui défilent malheureusement encore en France. Donc, on a aussi cette structure qui est largement en place. Donc, il faut faire attention à cette sémantique qui est importante à prendre en compte.
Oui, vous avez raison. En fait, c'était plutôt dans le point de vue de Elon Musk et de Mark Zuckerberg qui appellent ça du coup la liberté d'expression. Et
Bien sûr.
c'était là-dedans. Mais vous avez tout à fait raison.
Non, c'est important de se mettre d'accord en fait sur ces termes-là. Et
Oui.
c'est une des façons de réagir, c'est ça. C'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un nous parle de liberté d'expression, c'est de lui dire non, c'est le droit de haïr. C'est pas la liberté d'expression, c'est l'inverse qui se fait. Et donc il faut qu'on soit sans arrêt en réaction là-dessus.
Et justement, je me demandais sur cet aspect de liberté de haïr, je me demandais si ça pouvait pas se retourner en faveur des personnes trans dans le sens où sur les réseaux sociaux, justement, il y a beaucoup de gens qui donc expriment leur haine tous les jours, notamment J.K. Rowling et Musk. Et je me demandais si justement les réseaux sociaux pouvaient pas aider les personnes trans et les personnes LGBT+ à combattre ça en justement donnant du contexte sur ce qu'expriment J.K. Rowling et Musk. Notamment, il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur TikTok, sur Instagram, comme vous en avez parlé, enfin, vous l'avez évoqué au départ sur les passeports et à quel point, enfin, comment les gens ne peuvent plus avoir de passeport ou sans avoir leur genre assigné, enfin leur genre approprié assigné dessus. Donc je me demandais si les réseaux sociaux justement pouvaient aider donc à la lutte, mais en utilisant la haine qui existe déjà. Je sais pas si ça fait sens.
Bah c'est oui, c'est un petit peu retourner la force.
C'est ça.
Il faut qu'on soit de toute façon beaucoup plus présent et présente, alors qu'on l'est déjà beaucoup, hein. Mais on est complètement submergé aujourd'hui par les discours extrémistes d'extrême droite et on en a vraiment de tous les côtés qui arrivent. On a fait, nous, le test assez facile. On crée un compte Google, Gmail, tout bête, à zéro, sans aucun historique de navigation. On va sur YouTube avec ce compte-là, donc complètement neutre, et on tape ne serait-ce que transidentité. Les trois quarts des vidéos qui vont ressortir sont des vidéos anti-trans. Donc, il faut qu'on sature à l'inverse l'espace. Mais c'est très compliqué de saturer à l'inverse l'espace quand on a aussi l'immense majorité des médias conventionnels qui sont complètement basculés maintenant de l'extrême droite pour plein d'entre eux ou à la frontière de l'être. Parce qu'on a du Europe 1, du JDD, du Paris Match, du CNews. Bien sûr, on tape toujours sur CNews et C8, mais il y a aussi Canal+, et il y a aussi M6, et il y a aussi maintenant TF1 qui se dit ben, j'ai aussi mon public qui peut y avoir du côté du RN, donc on va flirter de ce côté-là. Donc c'est ultra compliqué de résister face à cette masse-là, et il faut faire aussi très attention aux réseaux sociaux, à se dire, bah, j'ai l'impression que ça marche super bien sur les réseaux sociaux parce que je ne vois que des personnes autour de moi qui me disent que des trucs vachement bien. Sauf que c'est le principe du réseau social. Si moi je like des personnes qui sont anti-Trump, je n'aurai que des messages de personnes anti-Trump.
Oui, c'est ça, c'est les
Mais
algorithmes.
une personne lambda aura zéro de ces messages-là.
Bah, écoutez,
Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler.
Oui, exactement. Écoutez, l'interview touche à sa fin. Je voulais juste dire donc aux personnes trans et LGBT qui nous écoutent de ne pas perdre espoir et que ils nous harcèlent pas parce qu'on est faible, mais parce qu'ils sont jaloux de notre pouvoir de liberté. Je redonne la
Voilà.
parole à Marine.
Absolument. Merci beaucoup Sam et merci beaucoup Anaïs Perrin-Pévrel. Je rappelle donc que vous êtes directrice de l'association Outrance. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Et tout de suite, nous avons un flash info par Fabien.
Le flash info de la matinale de 19h.
Bonsoir. Ce lundi matin, les agriculteurs de la chaîne des Pyrénées avaient prévu de perturber la circulation sur l'autoroute A63 à hauteur de Bayonne, mais les forces de l'ordre les en ont empêchés. Le convoi a alors pris la direction du centre de Bayonne au son des klaxons en empruntant les petites routes. Dans leur collimateur, le Mercosur, cet accord de libre-échange avec plusieurs États d'Amérique du Sud. La hausse prévue pardon, de la taxation du gazole non routier alimente également la colère. Ils réclament la détaxation des énergies et l'harmonisation des normes françaises et européennes. Un mouvement solidaire des agriculteurs espagnols mobilisés au même moment de l'autre côté des Pyrénées. Les agriculteurs ont annoncé vouloir se mobiliser durant 24 heures. Deux autres opérations seront menées en Haute-Garonne et dans les Pyrénées-Orientales. Et puis François Bayrou, de nouveau en péril ce lundi. Une motion de censure déposée par la France Insoumise et une partie de la gauche, hors socialiste, est étudiée à l'Assemblée nationale. Celle-ci fait suite à l'utilisation de l'article 49.3, mercredi dernier, pour faire adopter la seconde partie du projet de loi du financement de la sécurité sociale pour 2025. La semaine dernière, François Bayrou a survécu à deux motions de censure déjà déposées par la France Insoumise et une partie de la gauche. Celles-ci ont été rejetées, notamment à cause du refus du Parti Socialiste et du Rassemblement National de les voter. Alors que le Parti Socialiste a signifié son intention de déposer une motion de censure contre François Bayrou une fois la séquence budgétaire terminée, la stratégie socialiste a vivement irrité la France insoumise. Et puis pour Justin Trudeau, Donald Trump veut absorber le Canada. Selon plusieurs médias locaux, le Premier ministre s'inquiéterait des déclarations de son homologue américain alors qu'il s'est adressé en privé à des chefs d'entreprise pendant un sommet économique à Toronto, organisé pour faire face à la menace de Donald Trump, d'imposer des droits de douane de 25% sur des produits canadiens. De plus, Justin Trudeau estime que l'idée du président américain de faire du Canada le 51e État américain est motivée par la richesse du sous-sol. Ces derniers mois, le président américain a de nombreuses reprises évoqué la possibilité pour les États-Unis et le Canada de fusionner et a menacé de faire usage de la force économique pour annexer son voisin du Nord, un allié dont les États-Unis subventionnent la protection selon lui. Justin Trudeau assurait début janvier que jamais, au grand jamais, le Canada ne ferait partie des États-Unis. Au-delà des menaces douanières, le Premier ministre canadien a ajouté que son pays devrait se préparer à ce qui pourrait être une situation politique à long terme plus difficile des États-Unis.
Et on écoute tout de suite Echo de Follow, un artiste britannique.
Maybe we'll be better off.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Et c'était Écho de Follow sur Radio Campus Paris, le 93.9 FM.
Bonsoir, moi c'est Maïwenn, je suis avec vous ce soir et on va écouter un poème de Marine.
Le récit me rapporte de Brest à Paris, ces âmes sœurs que je délie, que je relis, qui se rencontrent et qui s'arrachent à moi. J'attrape des aiguilles de pain à pleine main. Marseille m'attrape, me happe et me déchire. De mes amitiés, tous mes liens s'étirent, m'attirent et me tirent dans une terre au loin, là-bas, où je pourrais vivre et m'abreuver de ces seuls liens, le décollage, l'amarrage. Ces mouvements se succèdent et s'en mêlent. Les successions, l'éphéméride, les fées méridiennes. Peut-être est-ce temps, moi aussi, de quitter mon port d'attache, de sillonner les routes sans embûches, sans ombrage. Tu t'approches et tu te décroches comme la neige d'un nuage pour venir recouvrir de ma matière grise les mirages à l'abordage.
Merci Marine.
Et nous passons au Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Maïwenn, dont vous avez déjà entendu la voix ce soir, va s'occuper du Zoom et nous recevons Okelou, Marie-Lou Méniel, de son vrai nom prénom, pour son nouvel album sorti le 7 février, Chuck and Off.
C'est ça, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir Okelou, alors on est super heureux de te recevoir dans la matinale de 19h.
Merci.
D'autant plus que tu as toi-même connu les web radios et les radios associatives. Donc comme disait Marine, tu es Marie-Lou Méniel, tu es née et grandi à Poitiers et tu as gagné une renommée internationale. Tu es ici pour nous parler de ton album Chuck and Off, donc il vient de sortir. Donc j'ai une première question un peu terre à terre, c'est sorti à 3 jours, comment tu te sens ?
Je me sens plutôt bien. Je me sens super bien même. Comment dire ? Je suis très sollicitée, bien sûr, il y a plein de choses à faire, il y a beaucoup de travail, donc j'essaie de rester concentrée pour faire ce que je dois faire. En l'occurrence, par exemple, il y a un truc qui est très important là, c'est travailler live. Donc voilà, c'est vrai que j'en parlais aujourd'hui d'ailleurs sur Insta, mais j'essaie de pas trop regarder le téléphone parce que j'ai toujours très envie de regarder les messages de tout le monde et de répondre à tout le monde et c'est impossible et donc voilà, je suis toujours à fond dans le taf quoi. C'est pas parce que c'est sorti que c'est presque un autre
ouais, t'as une deuxième partie,
ouais, c'est ça, une nouvelle étape de travail quoi.
Est-ce que c'est une étape qui est... Donc, pour rappel, t'as sorti une mixtape qui s'appelle Galore en 2020, c'était ton dernier projet. Est-ce que tu sens une évolution depuis Galore en termes de réception ? Est-ce que justement ce travail, peut-être de presse, de médias, il est plus intense maintenant ?
Clairement, ouais. Ouais, clairement. Rien à voir, j'ai envie de dire, presque.
Et ça te fait quoi de revenir un peu, du coup, sur la scène médiatique après 4 ans d'absence
Eh ben, c'est chouette. C'est pas un exercice qui me déplaît. Voire même, ça me donne presque... Je vais peut-être exagérer quand je dis ça, mais pas tant. Ça peut aussi me donner des clés de compréhension de mon propre travail, de discuter avec des gens, avec des journalistes qui ont un regard particulièrement aussi analyste des fois et à plusieurs reprises au cours de mes dernières expériences d'interview, etc. J'ai entendu des choses, je me suis dit putain c'est trop vrai sur mon propre taf, ça c'est drôle, c'est assez chouette en fait.
Ok, trop bien. Bah justement, on peut peut-être aller un peu dans l'analyse. Moi, je voulais parler un peu de tes paroles, qui des fois me sont un petit peu cryptiques, mais qui sont aussi très poétiques. Et tout d'abord, peut-être que tu peux nous éclairer sur le titre de l'album. Qu'est-ce que ça veut dire, Chuck and Off ?
Alors, grammaticalement, ça ne veut pas dire grand-chose. J'en ai fort conscience. Et du coup, c'est marrant parce que je me suis mise dans une situation où, évidemment, il allait falloir que j'explique ce choix. Mais justement, avant de faire l'exercice des interviews, je me disais « Non, mais je ne suis pas obligée. Je peux vraiment dire comme David Lynch et dire « Non, je n'expliquerai pas. » Mais non, en vrai, je suis heureuse de donner du contexte. En fait, Token Off, ça vient de mes premières expérimentations en yaourt que j'ai fait sur mes toutes premières démos il y a 2 ans et demi. Donc, je fais toujours ça quand j'enregistre des top lines sur mes idées de production, mes idées musicales. Je fais du yaourt, voilà. Et ensuite, j'écris mes paroles autour de ces sons qui sont choisis de manière très instinctive. Dans ses premiers essais, il y a eu ce truc, bah, c'était la chanson de Choking Off. Et donc je disais Choking Off. Et ensuite, en écrivant les paroles avec Casey, j'ai donné du sens. On a essayé de chercher ce qui pouvait s'articuler autour de l'idée de Choke. Casey, qui est mon coproducteur, m'a aussi donné plein de clés d'idées en fait autour de ce terme-là. Il m'a expliqué ce que ça voulait dire to get choked up. Qui est la phrase qu'on a utilisée dans la chanson. Mais j'avais quand même une attache à ces deux mots-là, associés ensemble, tout en sachant que ça ne voulait rien dire, qui fait qu'après 2 ans et demi de recherche, de titres d'albums et d'impasse, j'ai décidé de garder ces deux mots-là ensemble qui ont auxquels j'ai une attache qui m'est vraiment très personnelle. Et qui dépasse en fait l'idée de faire sens, qui est aussi un thème assez triturant pour moi dans tout l'album en fait, ce truc de faire sens. Donc
ouais.
Voilà, finalement.
Ouais, carrément. Et là, tu as parlé de Casey, donc c'est Casey MQ qui est coproducteur, qui est canadien, je crois.
Oui.
Et tu disais, tu as dit plusieurs fois en interview, même sur Instagram, que vous aviez vraiment un échange sur la façon d'écrire. Est-ce que du coup, tu peux. Enfin, donc là, tu me dis que tu faisais d'abord du yaourt, puis des paroles. Donc c'était une écriture à deux ou c'était quand même plutôt toi et ensuite Casey vient apporter sa patte ou...
Ça dépend vraiment des morceaux. Alors j'ai aussi pas travaillé qu'avec lui. Il y a eu quelques morceaux, je travaillais avec Cécile Believe, qui est une chanteuse qu'on adore, qu'on entend beaucoup sur le disque de Sophie d'ailleurs, je tiens à le rappeler. Avec Cécile et avec un autre auteur super talentueux de Los Angeles qui s'appelle Nate Company. Et voilà, donc j'ai vraiment fait toute la partie parole avec ces trois personnes. Et oui, ben, l'écriture des paroles, c'est sûr qu'elle vient dans un second temps. Casey, il est toujours là avec moi. Il y a des morceaux que j'ai écrits toute seule du début à la fin. Je pense à Plague Dog, par exemple. C'est quand j'ai de la chance de faire un truc qui tient la route que Casey valide, il me dit non, il n'y a rien à faire, je suis là, yes. mais bon, ça reste quand même une minorité des tracks dans l'album, mais voilà. Okay. Je sais pas si j'ai répondu à la question.
Non,
mais...
si, c'est super, merci. Alors je vais te poser des questions sur ton processus de création plutôt musicale, mais puisque tu as mentionné Sophie, j'ai une autre question pour toi. Donc Sophie, pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas, c'est une productrice qui était dans le label PC Music, qui est décédée depuis. Donc toi, tu fais partie plus ou moins du courant qu'on a nommé hyper pop, même si ça recoupe beaucoup d'autres choses. En tout cas, tu as travaillé avec des membres de PC Music. Tu as fait aussi la première partie de Caroline Polachek, tu as produit avec A.G. Cook qui est là sur cet album. Et cet été, il y a eu Brat de Charlie XCX. C'est devenu un phénomène mondial et ça a donné un écho encore plus large à cette musique, notamment avec son album de remix où elle a collaboré avec beaucoup d'artistes, dont Shy Girl avec qui toi-même tu as fait de la musique.
Un petit peu, ouais.
Et voilà, je me demandais en tout cas personnellement si le succès de Brat, ça a changé quelque chose dans la réception de ta propre musique, si ça a pu te donner de la visibilité par ruissellement musical.
C'est une très bonne question à laquelle je pense je serais incapable de répondre.
Okay.
J'ai aucune analyse de ce genre de mouvement, d'influence, mais c'est intéressant de se poser cette question-là.
Mais peut-être qu'on aura des réponses plus tard. Ouais, peut-être qu'il faudrait demander à Charlie elle-même.
Ouais, c'est ça.
Mais merci. Et du coup, je peux reprendre le fil de mon interview. Je voulais te demander donc, sur Galore, donc ta précédente mixtape, tu utilisais beaucoup le sampling, tu prenais beaucoup de sons, notamment d'Instagram ou de sons d'ambiance. Et là, on retrouve moins ça sur Choking Off. Et voilà, comment tu as produit musicalement, pourquoi ce changement artistique et...
Je pense que ce qui était surtout prépondérant dans Galore, moi les grosses différences que je fais entre les deux, principalement, c'est que Galore, c'est un album qui... Les premières inspirations musicales de l'album, elles se sont vraiment basées sur une manière de faire la musique. Pour Galore, j'étais beaucoup sur mon clavier. Mm-hmm. Donc je partais de vraiment d'impro tel une pianiste voilà, que je suis d'ailleurs au passage. Et voilà, c'est comme ça que j'ai écrit les premières démos. Et pour Tchoguenov, j'ai voulu vraiment changer cette approche. Je pense que j'avais bien conscience que si je remettais mes mains sur un clavier, j'allais plus ou moins faire la même chose, mm-hmm. ce qui n'est pas un problème en soi, mais j'avais pas cette ambition. Et du coup, j'ai dû un peu me pencher sur, on va dire, une pratique, entre guillemets, qui serait différente que celle du jouage. Et m'intéresser à d'autres choses que j'adore dans le monde de la production. Et du coup, mon focus, ça a été plus les séquences. Je parle souvent de boucles en interview, mm-hmm. Parce que c'est vrai que je les pense comme telles. Et l'idée, c'était un peu de fabriquer mes propres samples que j'aimerais écouter à l'infini, et voilà.
Ok, trop bien, merci. Changement de sujet complet, tu l'as mentionné tout à l'heure, une partie de ton travail maintenant, c'est de préparer le live. Tu commences bientôt une tournée en France, en Europe et même aux États-Unis et au Canada. Est-ce que tu as hâte de monter sur scène ?
Ouais, bien sûr. J'ai hâte de monter sur scène, mais avant d'avoir cette hâte-là, j'ai hâte d'avoir entre les mains un live qui tient bien la route. Ce n'est pas le cas pour le moment. Donc, mais oui, non, je suis super contente.
C'est trop bien. Ouais. Et d'ailleurs, tu as 3 dates à Paris, à la Cigale et au Trianon. Mais ouais. Je crois que c'est complet. Donc, ouais. Pour les auditeurs et auditrices, bah, too bad, fallait être là lors des ventes. J'avais une question à propos de ton public. Toi, tu as une fanbase qui est largement autant internationale que française. En tout cas de ce que j'ai l'impression. Et qu'est-ce que ça te fait d'être presque plus connue mondialement que dans ton pays finalement?
Ça me fait pas grand-chose. Enfin, comment dire, c'est pas... En fait, je pense que j'ai un rapport à l'auditoire d'une manière générale, mmh. qui est avant même que moi j'ai mon projet. Moi, j'étais une listener de Internet et j'ai jamais fait attention à ces histoires de frontières. Mmh. Quand j'écoutais des artistes, c'est vrai que du coup, en miroir de ça, pareil, c'est pas quelque chose auquel je porte vraiment beaucoup d'attention. Et je suis assez contente parce que ce qui est cool dans cette réalité-là, c'est que ça me permet de voyager et puis d'expandre un peu littéralement géographiquement le champ des possibles, quoi.
Mmh, ouais, carrément. Et est-ce que tu penses réécrire en français un jour, ou est-ce que justement l'anglais ça te permet d'avoir ce côté no border qui est aussi trop chouette?
Bah ça, c'est sûr que ça permet ça. C'est quand même difficile et rare, non pas que ce soit un objectif de ma part hyper conscientisé au départ, hein, de pouvoir un peu tourner à l'étranger, etc. Mais c'est une conséquence directe de ce choix d'utiliser l'anglais, ça c'est sûr. Maintenant, je pense que je serais extrêmement fière d'écrire en français et de maîtriser cet art. J'en éprouve pas forcément l'envie, mmh. Pour le moment, mais parce que pour moi c'est un peu un truc de fou en fait. C'est un exercice que je trouve qui à mon sens est inatteignable, mais pour lequel j'ai énormément de respect, peut-être un peu trop, c'est pour ça que je m'y prête même pas, mais voilà.
Merci Marie-Lou Méniel, donc Okelou, d'avoir été avec nous ce soir.
Merci à vous.
Et justement, on écoute le dernier son de ton album sorti vendredi dernier, le 7 février, donc l'album Tchoguenov. On écoute Blade Bird. When you're in the sky, I'm hoping you'll return.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
C'était Oiseau aveugle, Blake Bird de Okelou. On était vraiment ravis de l'avoir avec nous. Et tout de suite, une chronique par Simon. Bonsoir Simon.
Bonsoir.
Ta dernière chronique remonte à octobre.
Oui, désolé, j'étais parti acheter des clopes. Et puis je me suis rendu compte que je fumais pas. Donc du coup, je savais pas trop quoi en faire. Donc pendant 4 mois, j'étais un peu dans la rue, comme ça, dans Paris. J'étais en train d'essayer de les refourguer. J'étais comme les gens qui viennent te faire chier dans la rue pour te demander si t'as pas une cigarette. Sauf que là, c'est moi qui demandais aux gens si il voulait pas une cigarette, ce qui était un peu compliqué. C'est pas si facile de faire ça parce que au départ j'ai pas envie de déranger les gens, donc je propose qu'aux gens que je vois avec une clope au bec. Sauf qu'à chaque fois ils me bousculaient en me disant mais je suis déjà en train de fumer, pauvre type. Hey, je suis membre de l'ARCOM et je te rappelle dans ta chronique que fumais-tu, connard. Et ben c'est pour ça que je suis pas venu faire de chronique depuis octobre. C'était long, c'était très long. Tous ces jours, toutes ces nuits, tous ces 49.3 à aller voir les gens dans Paris et dire bonjour, tu veux pas une clope s'il te plaît. Bonjour, tu veux pas une clope s'il te plaît. Alors heureusement à un moment j'ai croisé un étudiant de Paris 8 et alors là c'était le jackpot, je lui en ai filé 20 sauf que c'était déroulé donc il m'en restait 80 000 à refourguer. Merde. Et puis au bout d'un moment je me suis quand même dit au pire autour de moi il y avait des poubelles donc là je lis dans vos pensées. Bon en même temps c'est pas compliqué parce que même les auditeuristes, les oreilles des auditeuristes lisent dans vos pensées tellement c'est évident. Vous vous dites tous dans le studio mais Simon t'aurais pu y penser plus tôt. Sauf que, bon, ça va. Je rappelle que je viens de passer 4 mois dans le froid. Bon, ici, il y en a qui a l'habitude pour Marine, ça s'appelle vivre dans les Hauts-de-Seine. Mais bon, moi, pas. Donc, ça m'a mis mes ménages en stand-by. Voilà, ménages en stand-by, comme on dit en Hauts-de-Seine. Bah oui, allumé TF1, voilà. Et puis, le peu de ménage qui me reste, je préfère le consacrer à autre chose. Au hasard, le fait qu'en 4 mois, le fait que Trump soit repassé, que son ministre propriétaire de Twitter fasse des saluts nazis le jour de son investiture à la Maison-Blanche, et que Trump projette de transformer Gaza en Club Med. Et en parlant de nazis, petit amalgame ou pas. Vous savez comment il s'appelle l'historien de l'Allemagne des années 30 qui a monté son propre cirque? Johann Chapiteau. c'est sûr que ça. Ah bah c'est malin, c'est pointu. Et bah évidemment. Autrement dit, c'est pas sur le
pointu,
compte Twitter.
Chapiteau.
Exactement.
Pointu.
Bien sûr. Et merci d'interrompre ma chronique. et bien sûr, c'est. Autrement dit, c'est pas sur le compte Twitter de la France Insoumise de l'Assemblée nationale qu'on retrouvera tant de qualités. Parce que oui, je sais pas si vous avez vu passer ça, mais en gros, là la semaine dernière, au moment où le groupe PS a refusé de voter la censure du gouvernement Bayrou, ce groupe Facebook, Twitter de la France Insoumise a posté une affiche où on voit Olivier Faure dos à dos avec Marine Le Pen, comme si c'était les deux faces d'une même pièce. Et bizarrement, l'affiche, elle n'est pas restée très longtemps sur Twitter. Bon, en même temps, vu la période, je pense qu'on comprend pourquoi. Hein. Je suis sûr que Elon Musk, lui, il a vu l'affiche, il s'est levé de sa chaise dans son canapé, en disant « Ah ben, je vous l'avais bien dit que les nazis, c'était des socialistes hein !» Bon, c'était la seule VF de Musk qui était disponible, donc j'ai fait... Après, on n'a pas beaucoup d'oseille, surtout avec le décor qu'on vient d'en faire. Après, voilà, j'ai pas de problème avec le fait de chier sur le PS, hein. Attention, hein, c'est un besoin aussi naturel que... Bah mais là, atteindre le stade du point Godwin à une telle vitesse, ça me semble un peu limite. Surtout quand on sait que dans la situation politique actuelle, il va pas y avoir d'autre choix, que ce soit dans une dissolution dans pas longtemps ou à la présidentielle, pour contrer le fascisme. Il va falloir réconcilier l'AFI et le PS. Sachant que déjà, quand on a créé le nouveau Front Populaire, t'avais toute la presse qui était là. Ah bah je croyais que vous pouviez pas vous encadrer. Mais là, plus l'AFI va faire des points Godwin en parlant du PS, plus il y aura de chance quand on va devoir créer le nouveau Front Populaire. Attention, ça va être très long cette histoire, plus long qu'Hélène et les garçons. T'auras Zlia Salamé qui dira « Ah bah monsieur Mélenchon, je croyais qu'ils étaient nazis au PS !» Qu'est-ce que ça dit de vous, monsieur Mélenchon? Oui, il y avait une VF qui était dispo pour tout le monde, mais en même temps, voilà, il y a la grippe et tout, les doubleurs sont pas dispo. Non, je dis tout ça, mais ça veut pas dire que j'ai la solution pour faire revenir le PS à gauche sans faire de point Godwin, hein, attention, hein. Mais j'ai envie de dire que, demeure de vous, hein, de toute façon, hein, moi je dois aller au buraliste chercher. Ah, c'était une barre de céréales que je voulais aller chercher en octobre. Ah, j'avais pas.
Une barre de. Des clopes.
De céréales,
ok. Ouais. Ok. Eh ben, merci, Simon. Merci pour ta chronique. Et un autre Simon était à la réalisation ce soir.
C'est le meilleur réalisateur.
Eh oui. Maïwenn à la coordination et au Zoom. Sam à l'interview. Simon Marie donc à la chronique. Et je crois que vous avez eu un petit poème aussi signé Marine, qui était aussi à l'anime. Et restez avec nous. Juste après, on écoute Les Obsédés Textuels, votre mensuel qui reçoit des autrices et auteurs du monde du théâtre.